dans cet amour, pour éviter le mal du siècle, le divorce, est-ce que je sais écouter? Comment se manifeste cette écoute dans mon attitude? Et mon fiancé, ma fiancée? Est-ce que l'un de nous parle trop? Imaginez si j'avais été marié. Ah, ma pauvre. Est-ce que l'un de nous parle trop? Au contraire, est-ce trop silencieux? Suis-je capable d'exprimer mes sentiments, mes peurs, mes tendresses, ma colère? Vous pouvez vous mettre en colère, hein? Et du moment que c'est une colère objective. La déception de ne pas retrouver quelque chose, des clés, quelque chose. Vous êtes déçu, ça tombe mal et tout ça. Vous pouvez être exaspéré, c'est pas... Et le péché commence dans l'injustice, dans la disproportion. Vous pouvez vous mettre en colère sans péché. Mais la colère doit être juste. Mais quand vous commencez à avoir du recul sur votre colère et que vous faites du cinéma, vous êtes dans le péché. Quand vous savez que vous êtes en colère et que vous en rajoutez. Ça s'appelle malice. Ou méchanceté. Y a-t-il des questions que j'ai peur de poser à mon fiancé, à ma fiancée? Vous pouvez demander conseil. À 35 euros, chez le psychiatre. Parfois, quand même, c'est plus. Mais c'est remboursé. Le psychologue, 60. Psychanalyste, 80, 100. Oui. Ou alors, une personne sage que vous aimez, que vous connaissez. Un bon ami, une bonne amie, mais pas celle qui vous conseille de divorcer. Ça, je peux vous assurer que, sauf à ce que vous veniez avec des cocards ou autres... dès que quelqu'un vous conseille de divorcer, vous, consciencieusement, vous rompez les ponts. Vous mettez des explosifs, même si c'est une vieille amitié. C'est toujours un mauvais conseil. Sauf s'il y a un cas psychiatrique, que vous souffrez, que vous pleurez tous les jours. Mais voyez-vous, la confiance... avec le jardin secret aussi dont je parlais tout à l'heure. Quand je rencontre un obstacle dans la communication, quelle est ma réaction? J'ai pas envie de parler. Quels sont les sujets que je n'aborde pas volontairement avec mon fiancé ou ma fiancée? La politique. Ah, moi, je pense que la planète, elle est foutue si on continue à rouler en diesel. Et je suis totalement d'accord... Il faut sauver la planète, hein. Vous vous occupez de votre fin de mois, alors que moi je m'occupe de la fin du monde. Ah, il faut le sortir, hein. Mais vous êtes peut-être d'accord, hein. Mais ça, c'est la politique. Et il vaut mieux que vous soyez de la même grosso modo. Ouais. Quelle a été la dernière démarche de mon fiancé qui m'a aidé à me confier? Y a-t-il des choses que... qu'il est en droit de connaître de moi dans ma vraie relation. Alors, je place vers la fin le truc qui choque. Vous me lyncherez plus tard. C'est les infidélités. Dans l'hypocrisie ecclésiastique catholique, n'est-ce pas, on vous permet de ne pas, si c'est un moment d'égarement et de faiblesse, en règle générale, des moments de tristesse, des moments de tension dans votre couple, et tout d'un coup vous avez quelqu'un qui est tellement gentil, qui est tellement compréhensif, voyez, et puis vous apercevez qu'en fait c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas, je vous le dis avant que vous me tuiez, vous n'êtes pas obligé de le dire si vous chutez. Il y a l'hypocrisie de la confession. Mais ce n'est pas l'hypocrisie. Hein. Vous dites à Dieu, je regrette sincèrement d'avoir fait cette faute. N'oubliez pas que votre époux, votre épouse, n'a pas forcément les épaules spirituelles pour avoir une telle nouvelle. Enfin, si vous persévérez dans l'infidélité et que vous êtes un gros porc, Là, de toute façon, il va le savoir. Ou que vous êtes voilà. Pour un homme, c'est plus facile à dire. Pour une femme. Et donc, ça, c'est même, ça peut invalider le mariage. Une personne qui vraiment n'a jamais su se tenir avant, pendant et après le mariage. Mais vous voyez, je l'ai dit, je l'ai dit. Hein? Même si vous n'êtes pas d'accord, en soi, vous n'avez pas à tout avouer à votre conjoint si c'est quelque chose d'extrêmement blessant. Au point de vue tactique humaine, s'il va le savoir certainement, il vaut mieux lui dire avant qu'il le sache par la bande. Hein? Mais si vous voulez, je veux vous préserver quelque chose d'un peu surnaturel, qui est la confession. On n'est pas obligé de dire toutes ses misères à son époux ou son épouse. Si vous le faites, vous pouvez le faire aussi. Mais ça peut être d'autres misères. Ça peut être d'avouer que vous êtes devenu alcoolique, que vous êtes accro au jeu, pour des exemples vraiment très bateaux. Il peut y avoir d'autres choses. Ou alors, comment dire, vous expliquez pourquoi vous ne voulez plus absolument plus voir votre frère ou votre sœur. Il y a tellement de choses qui sont plus personnelles, qui sont plus profondes, que vous n'allez pas forcément dire. Voilà. Mais de nos jours, on vous incite plutôt à tout dire. Voilà. Mais il faut à ce moment-là avoir beaucoup d'intelligence et de prudence. Ai-je un regard positif sur mon fiancé ou ma fiancée dans toutes les situations? C'est-à-dire la bienveillance, l'indulgence. Vous avez intérêt quand même, si vous êtes marié, d'avoir cette indulgence. En même temps, l'indulgence qui frise la faiblesse n'est pas forcément de l'amour. Vous pouvez aussi dire quelque chose de négatif à votre conjoint. Mais ça, c'est bateau, hein, ce que je vous dis. Mais au moins, c'est dit. Lorsque je l'écoute, est-ce que je cherche vraiment à comprendre ce qu'il a voulu dire? Suis-je capable de percevoir ce qu'il me dit de vrai, même quand cela m'est désagréable? Suis-je capable de me remettre en question? Ça s'appelle reconnaître ses torts. Ça, c'est vraiment essentiel à l'être humain. C'est le cœur même de la confession. La confession, c'est de reconnaître ses torts auprès d'un Dieu invisible, devant un pauvre serviteur qui vous écoute en son nom. C'est très surnaturel quand on y pense. Et vraiment libératoire par rapport au psychanalyste. Le prêtre étant tenu au secret absolu. Mais reconnaître ses torts, sans tomber dans le misérabilisme, c'est la vertu d'humilité et c'est une très grande vertu. Et qui vous, au lieu de vous affaiblir, vous renforce. Est-ce que j'estime bien connaître l'autre dans sa différence? Quels sont ses centres d'intérêt? Le caractère, l'usage du tabac, de l'alcool, avec modération, son attitude face au jeu. Moi, je connais un jeune là de 21 ans qui est accro au poker, là, et qui passe son temps sur des sites. Je vais le flinguer. Et j'ai observé ça, je tourne autour, et à un moment donné, je vais le plus intelligemment possible essayer de le dissuader. Mais c'est impressionnant, hein, quand vous avez un jeune qui commence à aimer le poker, Et... ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est qu'il y a une situation où il a eu une colère noire parce qu'il avait manqué un coup. Sur son ordinateur. Donc on a une pièce à côté, tout ça. Il a gueulé comme un âne, il a donné un coup, tout ça. Alors, ça peut être son tempérament, hein. Mais comme je connais son frère aîné, voilà. Sa façon de dépenser l'argent, ça c'est plus commun quand même que de jouer au poker. De son humeur, de son sens de l'humour. Vous voyez, comme m'avait dit un jour un jeune, on fait comme les parachutes. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien, 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 monsieur l'abbé. Voilà. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et si je veux savoir ce que ça veut dire. Quand on n'a pas d'humour, on fait comme les parachutes, on s'écrase. Suis-je mal à l'aise face au comportement de mon fiancé en société? Qui mange la bouche pleine, qui parle trop fort avec mes amis, à la maison, ses amis, la famille. Mon fiancé dépend-il trop de ses parents? Est-il en général, pardon, satisfait de ce que la vie ne lui apporte? Qu'est-ce que j'apprécie le plus en lui? Là, tout ça, ce sont des questions qui méritent d'être posées de temps en temps. Pour vous-même, pour un examen de conscience personnelle, à un moment donné. C'est ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Certains, dans les équipes Notre-Dame, tout ça, machin, c'est une fois par mois. Vu la densité de la vie moderne, je ne sais pas si une fois par mois, ça commence pas à devenir d'introspection lourde et hyper moderne, quoi. Alors, donc quel est ton vécu? Quel est mon vécu? Mais le problème, c'est de ne jamais à un moment donné, se parler franchement. D'où l'importance, quand on a des enfants, de les confier et d'aller manger tous les deux, quoi. Là, c'est très important. Ça, il faut le faire quand au moins, là, parfois, au moins une fois par trimestre, il faut provoquer au moins une fois par trimestre. Ce qui fait que, vous voyez, le devoir de s'asseoir, c'est de parler un peu de tout et de rien, mais de parler seul, quand, tranquillement. Ça peut être avec un repas. En tout cas, voilà, c'est important. Au moins, si ce n'est pas une fois par mois, ce qui est pour moi trop, au moins une fois par trimestre ou deux fois par an, minimum, minimum, minimum. Dans la vie moderne actuelle. Voilà. On se parle franchement. Mais si vous vous parlez franchement, facilement, souvent dans une semaine ou dans un mois, vous n'avez pas besoin de faire une réunion d'alcoolique anonyme. Imaginez, voilà, vous mettez un sac sur la tête. Alors, je m'appelle Paul et j'ai 32 ans, je suis marié et voilà. Mais je m'appelle Paulette, j'ai 31 ans, je suis marié avec Paul. Et qu'est-ce que tu as à dire contre lui C'est franchement artificiel. Eh oui. Caractère, attitude, éducation. Allez. La salle de bain. Le rangement de ses affaires. Suis-je prêt à accepter qu'il puisse évoluer ou changer? Le pardon. Et alors là, c'est vraiment très important, le pardon. Reconnaître ses torts et pardonner, c'est le secret de l'amour, de la fidélité, de l'unité, de tout ce que vous voulez. Avons-nous vécu des conflits? Avons-nous eu tendance à les fuir, à nous affronter, à nous expliquer? Avons-nous eu l'occasion de nous dire réciproquement nos blessures dues à la réaction de l'autre? Avons-nous déjà pris le temps de nous pardonner, de prier pour demander pardon à Dieu? Et pour le coup, vu le relâchement religieux, de la prière personnelle, de la prière du dimanche, une des choses qui est le plus attaquée, finalement, de manière très classique, c'est le pardon. Les gens, au bout d'un certain temps, ne se pardonnent plus. Et alors vous allez dire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que tous les dimanches on nous dise qu'il faut se pardonner pour se pardonner? Ben apparemment oui, c'est dans les 10 commandements. Tu parleras à Dieu, tu l'adoreras, tu respecteras Dieu, tu prieras avec tes frères et tes sœurs, hein, sanctifier le jour du Seigneur, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne seras pas violent et homicide, tu useras de la beauté de ton corps et de ton corps dans le mariage. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de pensée en dehors de, comment dire, sensuelle, en dehors de l'amour personnel dans le mariage. Et tu ne seras pas envieux, jaloux et querelleur. Et donc, si vous voulez, tout ça, vous pensez que c'est tellement... Oui, mais vous êtes né en France, il y a une atmosphère encore évangélique en France, mais petit à petit, les gens sont égoïstes, personnels. Non, cette source du pardon chrétien est dans la prière commune. Ça, c'est... En quoi m'est-il difficile de pardonner? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la rancune. Vous pouvez pardonner et ne pas oublier, mais il ne faut pas toujours ressasser. Moi, j'ai eu un couple comme ça, j'ai eu 3 séances de 2 heures, je peux vous assurer que c'était toujours les mêmes reproches, sur 1 an complet. Mais c'était un automatisme effrayant. Alors, comme c'était sur 1 an, si vous voulez, la 3e conversation était comme la première, 1 an plus tard. Les mêmes reproches, sur les mêmes points. Et dans le passé, s'il vous plaît, hein, c'est-à-dire que là, c'était un blocage redoutable. C'était automatique, c'était une personne, mais c'était... Eh bien voilà, ils ne se sont pas mariés. Et moi, je me suis opposé à leur mariage. Non, ça c'est absolument impossible. Il n'y a aucun pardon entre vous. Et pourtant, il y avait un enfant. Je vous assure qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 200 ans, le curé, le prêtre, pression sociale, il dit il faut régulariser. Et bien là, voyez-vous, en 2015, j'ai pris sur moi d'être un affreux progressiste, et bon, je dis, ça, jamais. Il y avait un enfant, hein. Mais une haine entre eux, mais des insultes, des machins, sans arrêt, incapable de se pardonner. Alors, je suis tout aussi déterminé après le mariage. Si vous avez été libre, si vous êtes mature, si vous n'êtes pas des dingos ou si vous n'avez pas quelques névroses, excusez-moi, hein, ou psychoses, là je peux vous dire dingo, mais attendez, le pardon quand même. Mais non, ça c'est bien, mais arrêtez. Ou vous êtes fou, vous êtes incapable de pardonner parce que vous avez des frayeurs intérieures et des angoisses intérieures, ou vous êtes des êtres humains sains d'esprit et vous pouvez avoir une vie normale et vous pardonner. Et ça, je ne pardonnerai jamais, c'est ce que t'as fait ta mère, la mère, tout ça, mais c'est pas possible. Eh ben, si. Voyez. Alors, à la limite, quand c'est par rapport à l'extérieur, mais enfin, vous savez, quand vous interdisez à une belle-mère de voir ses enfants, ses petits-enfants, il faut vous y prendre à 2 fois. Hein. C'est quand même très très dur. Hein. Très très dur. Hein. Il faut... Vous voyez, méditer la religion chrétienne. La religion chrétienne, quelles que soient les duretés de tel siècle ou de tel siècle, parce que des chrétiens ont fait des guerres ou autres, je suis désolé, hein, la religion chrétienne, c'est l'amour et le pardon. Vous aurez beau essayer de sortir les croisades, le machin, le truc et le bidule, les chrétiens d'Orient à l'époque se faisaient tailler en pièces par les armées musulmanes, il y a eu une intervention européenne, certains ont pris leur part du gâteau en passant, mais si vous voulez, en soi, le christianisme a toujours désiré apporter quelque chose. Et, regardez la colonisation française par rapport à la colonisation anglo-saxonne. Plus froide. Les Français avaient toujours dans leur valise des missionnaires catholiques. Des religieux, des religieuses. Et on ne les a pas tous baptisés par l'épée. Hein. Et, Et donc, voyez-vous, le trésor même de la foi chrétienne, c'est un Dieu qui est Père et qui aime la nature humaine. C'est le cœur même. Et qui donne sa pensée éternelle, sa parole éternelle, unie à un petit homme. La nature humaine et la nature divine sont unies dans la personne de Jésus. Qui est la preuve d'amour de Dieu la plus complète, voyez, et qui est la cause de la haine des démons et de Lucifer. Il déteste d'autant plus Dieu et la nature humaine qu'il y a cette alliance d'amour. Il déteste Jésus et il déteste la Vierge Marie parce que c'est l'amour. Parce que lui, c'est l'envie, c'est l'orgueil. Dans les tentations du Christ, alors qu'il tourne autour de cet homme, de savoir qui il est, et il lui dit à un moment donné, tous les royaumes du monde, de la terre, m'ont été donnés. Et j'en suis le maître, et je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le pouvoir sur ces royaumes. Mais c'est là, vous voyez, c'est une parole authentique de Lucifer. Il a cette mégalomanie de pouvoir et de puissance. Et il poursuit jusqu'au bout cette volonté de dominer la nature humaine. Bon, il échoue toujours. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la tête des gens. Il ne peut pas obliger les gens à l'aimer. Vous voyez, ni Gengis Khan, ni Alexandre, ni Jules César, ni Staline, ni Hitler, ni Mao, ni Pol Pot n'ont pu obliger leur peuple à les aimer. Ce n'est pas possible. L'amour personnel vis-à-vis de quelqu'un, c'est un amour qui est fondé sur l'estime mutuelle. Lorsqu'on croit que Jésus est notre frère, et qu'il nous aime, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous inventer pour vous, et qu'on ne peut pas vous arracher. C'est la raison pour laquelle, pour mieux connaître la foi chrétienne, je vous invite toujours, parce que c'est un film que j'ai vu vraiment plusieurs fois avec les fidèles et autres, mais qui, à mon avis, est assez marquant, c'est le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Vous voyez ? Regardez-le à un moment donné, posément, pour vous rendre compte au nom de qui vous allez vous marier. Jésus, qui est présent au mariage de Cana, il bénit le mariage. Il n'y a pas de surnaturalisme dans la foi chrétienne. Le mariage est saint. Et le maître du festin, la Vierge Marie, de manière très belle, elle dit: ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire qu'elle s'inquiète du bonheur des couples, du couple, des couples, des êtres humains, de ses enfants. C'est une belle prière, hein, ils n'ont plus de vin. Donne-leur du vin. Et là, Jésus lui dit: femme, Ève, qu'y a-t-il entre toi et moi pour que tu oses me demander de sauver les hommes? Et c'est bien pour ça que tu es venue. Et elle dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Là, le Christ dit: prenez de l'eau, puisez de l'eau et apportez-le au maître du festin. Ils apportent des amphores au maître du festin, ils goûtent et lui, il boit du vin. Et ce vin est absolument extraordinaire, délicieux. Je vous avais dit la dernière fois que c'était de la pâte, hein, c'est très, très liquoreux les vins antiques. Et on mettait toujours de l'eau avec, hein, on les mixtait. Et là, le vin n'est pas épais, il n'a pas été ajouté d'eau, il a été créé vin. Et il goûte et il dit... Et il dit au couple, à l'époux et à l'épouse: d'habitude, on donne le vin le meilleur au début du repas, et quand on a la bouche pâteuse, on donne un vin moins bon. Et vous avez réservé le meilleur vin. Eh bien, il le dit à Dieu. Il le dit à Jésus, qui est l'époux. Et nous sommes dans le temps de l'Avent, juste avant Noël, et Saint Jean-Baptiste dit: Jésus, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'époux. C'est celui qui vient se marier avec nous. Je suis l'ami de l'époux. Voilà ce que dit saint Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau spirituel de cet homme qui, depuis l'âge de 6 ans, est dans le désert, à bouffer des sauterelles et du miel sauvage. Vous voyez, mais à prier. Il est très spirituel, Jean-Baptiste. Même s'il engueule les uns, encourage les autres, il est extrêmement spirituel. C'est un ermite très bon. Et il dit, je suis l'ami de l'époux. Et quand j'entends la voix de l'époux, je me réjouis. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et Jésus vient pour être l'époux de la nature humaine. Et vous-même, vous êtes invité à vous aimer, à vous comprendre, pour être l'un à l'autre dans cet amour spirituel qui n'est pas seulement un amour occasionnel, mais qui est un amour d'engagement. Avec toutes ces questions de psychologie magazine aussi, qui sont intéressantes quand même aussi à connaître. Avez-vous des questions ? C'est ce qu'on appelle un enseignement magistral. Ça me rappelle quand j'étais en terminale en cours de philo. Moi, même quand j'ai fait S, j'ai eu des cours de philo. Enfin, S, non, j'ai fait C. 88.